lui, il travaille à Air France.
Oui, j'ai changé de boîte.
Mais... Et il travaille à Air France, il est toujours mécanicien. Et la perruque, tu peux en parler de ce qui se fait aujourd'hui dans les ateliers.
Ce qui se fait aujourd'hui dans les ateliers, dans les ateliers, ça représente quand même pas beaucoup de monde à Air France, hein, la majorité. De tout. Ça va de la ferronnerie sur des portes. Hein. Ils les font sur plan, hein, et puis les montent chez eux. Ils sont aussi soudeurs en général. Ils font de la soudure chez eux. Donc ils les montent après. Alors ça, j'ai vu des portes. Puis souvent pour leur baraque, hein, souvent la perruque remplit l'habitation. Hein. Et puis sinon, un peu de tout. C'est aussi ce qui est lié à la voiture. On perruque quand même pas mal de voitures.
Vous faites des pièces pour.
Oui, c'est ça, voilà, des pièces.
D'accord.
Ça, en résine, parce que. Il y a un peu de machine-outil révisine. Mais sinon, ça beaucoup de soudure. Maintenant, c'est beaucoup de soudure. Hein. Beaucoup de choses comme ça. Alors moi, maintenant, je me suis lancé dans d'autres choses. Depuis que je suis Air France, alors, Robert, il doit avoir quelques photos, là, c'est pareil, dans le canard, dans le bouquin.
Faut montrer tes photos.
Ouais. J'ai des enfants qui font un art martial, ça s'appelle du Vau Vietnam, et donc on fait des sabres pour les enfants. Toujours un peu guerrier. Souvent on est des mecs. Non, je déconne, mais c'est vrai que bon, en ce moment c'est ça, c'est les épées, les sabres, pas des goupilles de roue. C'est la perruque, quoi. Donc, c'est souvent en alu, beaucoup de choses en alu, et puis après du laiton, des choses comme ça. Puis quand on trouve vraiment, vraiment pas dans la boîte, ce qui est rare, là ça m'est arrivé, j'avais fait un manche, je savais pas comment le faire, puis j'ai trouvé des pieds de lit à Casto. J'ai acheté un pied de lit à Castorama, puis donc c'est le seul truc qui n'était pas de la perruque. Tout n'est pas la perruque qui est à la boîte, et aussi, bon, il y a un petit peu d'achat quand même, quoi.
D'accord.
On fait pas une chère, monsieur, parce que les radins. Hein. Non, en principe, quand même, on le fait avec ce qu'il y a sur place.
Oui, oui, c'est
des perruques.
Ouais. Faire avec
la perruque, c'est ça, mais bon. Ouais.
Les perruques exceptionnelles que je connais, moi, c'est aux ateliers de Championnet, parce que tu me demandais chez Peugeot. Mais chez Peugeot, les camarades que je connais, c'est des OS, tu vois, ils sont sur chaîne. Sur chaîne, pour faire de la perruque, il faut avoir les moyens, le temps, et puis la formation technique aussi. Mmh. Quand tu es sur une chaîne, un OS, il fait moins souvent. Il y a des exemples extraordinaires de chaînes qui s'arrêtent pour fabriquer, dans le bouquin d'Étienne de Mavé, pour fabriquer des flotteurs pour une maison des jeunes, pour faire des radeaux. Et c'est quand même exceptionnel. Par contre, les ouvriers professionnels, ils font... Donc, les objets mythiques qui ont été faits, c'est aux ateliers de Championnet, dans les ateliers de réparation des bus, ils n'avaient pas beaucoup de travail. C'est un chef qui a fait faire un dériveur complet, c'est-à-dire un bateau qui faisait au moins 6 mètres en bois, à l'atelier du bois. Il l'a fait faire par les compagnons. Ils ont sorti un dériveur complet et on a des copains... Je peux confirmer, on a des copains Air France qui ont fait des petits avions, ça s'appelait les poux du ciel, et ils les sortaient en pièces détachées des petits planeurs. Et puis, donc c'est des perruques rares, et puis ça, moi, c'est celle que je préfère. C'est une perruque rare, elle date de...
La cocotte, c'est ça?
Elle date de 1865, et à l'époque, c'est des cocottes en tôle, hein, style qui ressemble à des cocottes en papier. Et en fait, il y avait une rivalité de métiers à l'époque entre les métiers étaient encore très importants, hein, et donc le menuisier était fier de partir d'un arbre pour arriver à faire un meuble. À l'usine, les compagnons faisaient un ensemble, ils ne faisaient pas du travail parcellisé. Et donc le marteau-pilon à l'époque arrive, c'est la modernité, et les forgerons sont critiqués par dire c'est une grosse machine, d'accord, vous faites des choses qui font beaucoup de bruit, mais vous n'êtes pas capable de faire un objet en entier. Et pour le défi, ils ont plié avec au marteau pilon de la tôle pour faire une cocotte en tôle. Je trouve ça très 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 joli. Voilà, donc. Et après il y a des perruques extraordinaires qu'on n'a pas encore vues, qui viennent des chantiers navals de Gdansk. Dont Hélène a peut-être une partie des photos. Quand il y avait les grèves ouvrières à Gdansk en 89, je crois, donc à Gdansk comme ailleurs, les perruqueurs travaillent. Donc apparemment, elle me disait qu'il y avait des photos de Christ en perruque. Je suis impatient de voir des photos du Christ en perruque.
Est-ce que...
Oui, c'est
pas la même culture.
C'est la période de circonstances. Tu sais, moi j'ai vu ça. Alors, il y a aussi les parents. Ouais, ça, c'est quelque chose qui marche bien. Moi, j'ai vu, il était fait au boulot. Un gars qui a fait toute sa carrière à Air France, sauf il était au tout début de sa vie professionnelle, il était apprenti à la SNCF. Et ça l'a marqué plus que tout le reste. Et donc, les copains lui avaient fait une. Avec que de la récupération. Vraiment, c'est superbe. Normalement, je devrais avoir les photos. Une locomotive avec un tender, un truc grand comme ça, c'est super beau, avec des roulements à bimes, toute la récup possible, il n'y a rien acheté, hein, c'est que de la soudure. Ça c'était sympa. Et il y a aussi autre chose, j'ai vu ça, c'était à la CGT à Orly, dans le cadre de la CGT, il y a une pièce, un réacteur d'avion qui ressemble un peu stylisé, un peu comme un buste. Et les mecs, quand ils n'avaient pas la rallonge, ils appelaient, j'ai eu le costard d'or. Et donc c'est une pièce utilisée, c'est très très beau, avec un socle en bois, il est marqué costard d'or 1977, ou enfin bon, et le mec on lui offrait parce qu'il n'avait pas une rallonge, mais il avait un sacré costard. Ça c'était pas vrai.
Ça permet de voler du temps de travail et de voler de la matière, donc pour moi c'est... Pour lui aussi, j'ai toujours encore plus que moi. C'est une grande joie.
Même pas travailler sauf pour la perruque.
Hein?
Oui, mais c'est ça. C'est ça te fait chier de faire le boulot. Enfin, tu fais pas forcément toujours le même boulot, mais ça t'emmerde. Tu sais pas forcément ce que tu aimerais faire. Là, t'en profites. C'est sur le temps de travail du patron avec son matos et c'est à l'œil. Mais c'est ça hein, l'intérêt. Hein. Sinon, il n'y en aurait pas. Hein.
Ouais, mais alors, ça, c'est le débat qu'il y a dans un des derniers numéros de Sociologie du Travail. Il y a quelqu'un qui est venu à l'exposition qui avait participé l'aide à Madoff, qui est un jeune sociologue, qui ne connaissait vraiment rien au départ, et puis qui a appris assez vite, mais il a appris à mon avis de travers, c'est-à-dire qu'il explique que cette complicité dont tu parles, tu vois, tu fais de la perruque, mais après tu bourres pour rattraper ton travail, donc c'est de fait une forme de tolérance, et ça existe. Alors, ce que dit Serge, ça existe aussi, des journées entières, je ne savais pas que ça avait mis plus de 3 semaines à faire, des semaines entières à perruquer.
Non, mais lui, des fraiseurs d'origine,
des semaines entières à perruquer. C'est des conditions favorables, et c'est pas toujours comme ça. Et c'est vrai que il y a des endroits où on te demande, en contrepartie du fait que tu fais bien ton boulot et que tu le fais vite, on te laisse du temps pour faire. Et donc Michel Antoby, le sociologue, bébé sociologue, non, c'est vrai. Et il explique que c'est une régulation, c'est une forme de régulation du travail. Faut pas déconner quoi. Ça me gonfle un peu parce que il tire un trait sur le fait que c'est une forme d'opposition au patronat. Et deuxièmement, en termes de flux économique, tu vois, c'est pas une forme de régulation du travail, tu vois, parce que la perruque, c'est par rapport à une production manufacturière, c'est rien, quoi. Donc ça a pas de sens.
Tu parles de réappropriation d'un surtravail aussi, d'un surtravail non payé.
Oui, ouais, c'est une vieille idée qu'un philosophe juif allemand qui avait parlé de ça autrefois. La plus-value, quoi, tu vois. Ouais. Tu récupères. Tu récupères une partie de ce qui t'est pas payé. Ouais. Puisque, quand même, l'exploitation, si j'ai bien compris, c'est le vol. C'est un autre philosophe. Mais.
Il y a des mecs qui étaient à l'usine.
Il était pas lui, mais il était Proudhon, il était menuisier, je crois. Au typo.
Je sais plus, les typos, je crois.
Des typos. Ouais, il devait être typo. Ouais, il était pas menuisier. Il n'était pas grave. Non, c'est aussi. Mais ça. C'est vrai, pas d'ouvrier politisé à moitié comme lui, mais. Mais, mais si tu veux, pour la masse des perruqueurs, c'est pas une réappropriation. Je veux dire, c'est déjà une conceptualisation de dire je me réapproprie la plus-value. Mmh. D'avoir une formation marxiste que.
Ouais, mais ça, tu peux ne pas le dire et puis le faire, quoi. Enfin, et le faire comme tel, quoi. Et le faire consciemment.
Je suis bien d'accord. Non, je suis bien d'accord. Et que c'est, ça peut tout à fait être inconscient.
C'est possible,
vous avez. Oui, non. Mais c'est pas toujours si ambigu, parce que c'est pas toujours une forme de révolte. Hein. Il y a des perruqueurs qui sont. Bah, tu vois, qui
paierait qu'à l'arrière quand il y a une grève, quoi, ils en profitent.
Non,
t'es pas forcément.
T'es pas forcément révolté parce que t'es perruqueur. Il n'y a pas d'automatisme. Bah, tu vois, nous aussi, on est une génération déterminée. On avait 20 ans en 68. Hein. C'est aussi une génération particulière. Et la perruque, ça date pas de 68. Quoi.
Et aujourd'hui alors.
Hein? Aujourd'hui. Aujourd'hui je suis. Enfin, Serge, je peux en parler.
Aujourd'hui la
moi, parce que moi je suis dans un bureau maintenant, mais.
Bon, c'est
même sa vie avec moi. Oh, j'ai beaucoup de boulot, je suis pas le temps de perruquer. J'ai pas le temps de perruquer. Et non, mais il n'y a aucune raison que ça s'arrête.
Ouais, non,
c'est ça. Et les exemples que j'ai trouvés récemment, c'était en Russie, tu vois. Et Hélène en Pologne, en Russie récemment, enfin, tu vois, les ouvrières étaient gueulées parce que du temps du socialisme d'irréel, du temps du communisme, comme il y avait une pénurie, les gens perruquaient, et puis qu'il y avait très peu de productivité, les gens perruquaient comme des malades. Et maintenant, c'était racheté par des patrons privés, quoi. Fille raconte, c'est une usine de roulement à billes qu'elle est obligée de perruquer en dehors de son temps de travail, de louer la machine et de payer la matière première.
C'est plus la perruque.
C'est plus la perruque. Et elle gueule contre ça, quoi. Et bon, en France, il y a beaucoup, beaucoup de perruques.
Oui, dans les ateliers, hein, bon, là, c'est un peu compliqué. Là, mais au même titre que disait Robert, là, c'est vrai que c'est plus compliqué quand tu travailles à Aulnay sur la chaîne que quand tu es ouvrier professionnel à côté sur la maintenance. Ouais. Bon, c'est clair que là, tu as plus de temps. Ouais. Bon, et puis t'as pas le même savoir, la technique, etc. C'est clair aussi.
Elle a pu changer un peu, mais Étienne de Maville a fait un article dans Libération il n'y a pas très longtemps sur la perruque. Il dit des choses qui sont, à mon avis, pas forcément très scientifiques. Il dit aujourd'hui avec les ordinateurs.
Vas-y, cite, je vérifie.
Avec
cite, je vérifie.
Il connaît pas.
Avec les ordinateurs, les machines à commande numérique, tu peux plus perruquer parce que ça enregistre.
Oui,
un micro-ordinateur enregistre tout.
Exactement.
Mais.
Alors que tout le monde.
D'une part, c'est pas vrai. Tu vois. Quand tu as fini un programme, tu peux l'effacer. C'est pas comme un micro, c'est pas comme un disque dur. Une machine-outil, c'est pas comme un disque dur. Tu peux tout à fait effacer. Enfin, je parle des copains qui travaillent aujourd'hui sur machine-outil. Et puis, deuxièmement, même si c'était le cas, la perruque, elle peut être tolérée. Donc, d'accord, c'est dans l'ordinateur, mais le chef, il voit que tu fais de la perruque sur une commande numérique comme sur une machine classique. Donc, ça change rien. Sauf qu'il faut appuyer sur des boutons, lui tourner des manivelles. Ça a changé. Ce qui a changé probablement, mais moi j'ai pas une vue nationale ou internationale, c'est l'intensité du travail. Il y a une intensification du travail, mais c'est pas vrai par exemple vers France.
Non, c'est gros droit chez toi. Non, mais c'est aussi une grosse entreprise. Tu peux te permettre de faire beaucoup plus que dans une petite boîte de 20 ouvriers. Je pense que ça va être dur. Hein, t'as le patron et le petit chef tout le temps sur le dos, alors que nous les chefs, ils font la perruque aussi. Hein.
Et en plus, on ne peut pas répondre à ta question parce qu'on n'a pas. On n'a pas une enquête suffisante pour savoir c'était combien la perruque en 1850, en 1950, en 1970. Aujourd'hui, on n'a aucune idée.
Mais aujourd'hui, par exemple, est-ce que les boîtes ont développé des stratégies particulières pour surveiller, pour empêcher, pour l'accepter? Et les choses qui se disent aujourd'hui dans le monde de la France, il y a quelqu'un qui dit quoi que ce soit.
Non,
il y a
des licenciements,
mais ça s'améliorera toujours.
Non, ce qu'il y a maintenant, si tu veux. Moi, je vois chez nous, avant les machines-outils, tu pouvais la prendre comme tu voulais. Maintenant, il les enferme, il faut aller demander le cadenas au chef. Le parc à ferraille, tout, où tu peux te servir pour la ferraille, c'est fermé à clé. Il y a ces choses-là, puis il y a toujours l'épée de Damoclès. Quand tu sors, si tu as le gardien qui te chope avec ta valise un peu pleine, c'est compliqué.
Chez Seat, par exemple, en Espagne, ils contrôlent tout le monde à la sortie.
Ils ont des détecteurs
Mais alors, moi, j'ai vécu ça à la FACOM, tu vois, travailler à la FACOM, piquer des clés, la FACOM. Il y avait un tourniquet, c'est vieux, hein, c'est 72, je crois. Il y avait un tourniquet, comme tu n'en avais pas encore dans le métro, un truc à trois branches. Et si tu étais sensible au vanadium, tu vois, qui composait les clés, et s'il y avait du vanadium, plof, le truc qui était bloqué, passer un détecteur sur toi et ils appelaient les keufs, tu vois, c'était vraiment une boîte de merde, sauf que il y a un parc à vélo et tout le monde passait par le parc à vélo. Donc tous les ouvriers FACOM avaient un outillage complet FACOM.
Non, ça a vraiment pas changé, il y a toujours eu des mecs qui étaient là pour piquer, puis il y a toujours les autres, nous qui essayons de passer là.
Je crois pas que ça a changé, moi je crois pas que ça a changé, mais je dis on peut pas... On ne peut pas le prouver. On sait qu'il y a des choses qui ont changé, par exemple l'alcool, tu vois, il est en diminution, parce qu'il est en diminution dans la société aussi, tu vois. Mais puis il y a des trucs qui ont changé aussi, par exemple les photos de cul qui couvraient des ateliers entiers, elles sont interdites. Maintenant, les mecs, Serge, il peut en parler, quand ils quittent l'équipe, il ne peut pas en parler finalement. Ils sont sur des sites internet parce qu'il y a des discussions dans les usines, tu vois. Bon, je ne dis pas que c'est un progrès, hein. Je dis que ça a changé. Quoi. Ouais. Ça, on est sûr que ça a changé. Il défend les pédophiles.
Sans commentaire.
Et il y avait une autre question, je sais, par rapport à... Est-ce que vous avez eu des infos sur ce qui se passe dans les pays asiatiques? Là où maintenant, il y a de la main-d'œuvre qui travaille.
Il n'y a pas de raison que ce soit différent.
Voilà, il y a une
telle autre culture que...
Vous n'avez jamais entendu parler de produits perruques qui viendraient de Chine?
Je cherche quelqu'un pour m'envoyer là-bas. Avec des crédits.
C'est un film, alors.
Une bourse pour aller aux Philippines, en Asie, chez Toyota. Non, je n'ai jamais entendu parler. C'est une autre culture, hein, c'est sûr.
Justement, je vais demander, est-ce que c'est un réflexe typiquement européen, quoi qu'il n'y ait pas de raison, hein, parce que...
Je ne crois pas, moi, mais c'est vraiment qu'une hypothèse. Tu vois. Ouais. Moi, j'étais vachement content quand tu m'as dit qu'au chantier naval de Gdansk, qu'ils faisaient des... Parce que c'est déjà une autre culture aussi. Hein, tu vois,
c'est sûr, mais on est toujours dans une région pas trop disparaître.
Ah bon, ce que je sais, c'est la causette, ça n'a rien à voir avec la perruque, mais les gestes sont inversés en Asie, tu vois, les gestes techniques, c'est-à-dire que la lime, quand tu limes en Europe, tu pousses, et puis à retour, tu laisses libre, et ensuite tu repousses en avant. Et en Asie, tu tires. Tu mets l'effort en tirant et puis tu repousses libre. Ah bon. Ça, c'est complètement raison. Il n'y a aucune raison.
Il n'y a rien qui
scientifique, technique.
Je ne connaissais pas la ligne, mais je sais qu'en Asie, souvent, par exemple, quand quelqu'un qui épluche un fruit, un légume, c'est jamais côté du corps, on dégage toujours vers l'extérieur. Mais je ne connaissais pas la lime.
Épluche une pomme, tu épluches comme ça. Pour balayer en Asie, tu balayes vers l'extérieur, en Europe, tu balayes vers l'intérieur. Et c'est, je crois que c'est Marcel Mauss qui raconte que dans les tranchées, ça m'a fait étonner aussi, en 14, quand ils creusaient les tranchées, quand il y avait la relève de l'armée anglaise par l'armée française, ils ne prenaient pas les mêmes pelles pour creuser, ils changeaient 3000 pelles d'un coup. Tu vois. ça reste surréaliste, mais bon, c'est pas les mêmes pelles en Angleterre pour faire des trous dans la terre. Donc c'est pour ça que je fais cette digression. Je sais pas, j'aimerais bien savoir. Je vois pas le mec qui fabrique des casseroles, tu vois, à Shanghai, et puis qui a pas de casserole à la maison, ça m'étonnerait bien qu'il fasse pas une casserole pour...
Théorique, je sais pas, mais la pique, il y a pas de raison.
La fourche, c'est clair.
Mais c'est pas loin, t'en es pas loin, quoi.
Après, je sais pas, les mentalité confucéenne, c'est différent, mais je méfie. Ça inonde pas toute la société, forcément. Ouais. Il y a aussi des voleurs qui ne sont pas confucéens.
Dans les bureaux, alors.
Les bureaux, c'est fantastique.
Mais ça prend comme la rue dans les bureaux.
Dans les bureaux, ce que je connais un peu, tu vois, c'est pas tellement du. C'est de la perruque, oui. C'est faire son courrier. Tout le monde fait son courrier sur ordinateur.
C'est au niveau du temps, surtout.
Hein?
C'est au niveau du temps.
C'est une réalisation. C'est pas une réalisation nationale. Faire son courrier, c'est
pas dans le temps de travail.
Après, tu sors
pas là, je la perruque aussi.
Je l'envoie. Je sais qu'il y a des gens qui jouent à la bourse.
Ah oui,
donc ça c'est aussi une activité.
Hein. Tu ici, vous
et puis, je pense que c'est surtout du temps, la lecture des journaux, la lecture des journaux en ligne, ça prend quand même pas mal de temps dans les bureaux.
Et les producteurs de sites internet aussi.
Ouais,
par exemple, qui bossent dans des boîtes de production de sites internet, montent systématiquement leur propre site sur leur lieu de travail avec le matériel.
Ça doit être énorme. La perruque dans les bureaux, ça doit être énorme.
Mais c'est moi.
Les gens en réseau.
Oui, c'est plus virtuel, mais c'est toujours pendant le temps de travail avec la
caméra du patron. Le tournoi de Tetris.
Ça m'est pas en jeu à
réapproprier.
Non, c'est différent. C'est différent.